commun, où?
Le spectacle aura lieu le jeudi 10 novembre au Terminal des Croisières, avec des artistes invités comme Trana Wintour, de Big Brother Célébrité, Océane Aqua Black, de Canada's Drag Race, Gabrielle, Jojo Bones et IGN. Un spectacle haut en couleurs comprenant humour, chant, drag queen et bien plus encore. Tous les détails sur legrisquebec.ca.
Moi, c'est Robert, j'aime vraiment Linux pis des kiwis des nerds.
Eh oui, Robert, pour citer un grand homme, l'émission la plus fruitée de la Norderie vous annonce son grand retour. Soyez des nôtres le dimanche midi pour la contre-attaque des kiwis. Sur les ondes de Chiz 94.3.
Depuis 25 ans, nous, on est passé à autre chose.
Ah yeah, yeah, ah yeah, yeah.
Chiz 94.3, la radio que tu mérites depuis 1997.
Bonjour tout le monde et re-bienvenue à Droit de parole, le podcast et l'émission de radio de l'Association des étudiants et étudiantes en droit de l'Université Laval. Cette semaine, on a la chance de recevoir les coprésidentes du Comité du droit du travail, Sabrina et Megan, ainsi qu'un avocat en droit du travail au cabinet Kane Lamore, Maître Louis Sainte-Marie. Donc, cette semaine, ce sont Megan et Sabrina qui vont prendre la relève pour l'animation. Alors, je vous souhaite une bonne émission.
Oui, donc bonjour tout le monde. Moi, c'est Megan Aymon. Je suis coprésidente et cofondatrice du Comité de droit du travail de l'Université Laval. Je termine présentement ma deuxième année au bac en droit. Avant d'étudier en droit, j'étais en ergothérapie, d'où mon fort intérêt là, pour l'aspect santé-sécurité du droit du travail.
Oui, bonjour, moi c'est Sabrina Cloutier. Donc, de mon côté, je suis aussi coprésidente et cofondatrice du comité. Je termine actuellement ma deuxième année comme Megan. Puis, avant de rentrer au bac en droit, j'étais en relations industrielles, d'où mon intérêt pour les relations de travail. Donc, c'est vraiment dans ce bac-là que j'ai eu un coup de cœur pour le cours de droit du travail.
Donc, en ce qui concerne la création du comité l'année dernière, nous avons passé par les différentes modalités de création imposées par les règlements. Mais dans le fond, d'où provient notre idée?
Bien, de base, c'est sûr qu'on était intéressé par le droit du travail, mais on avait surtout une volonté de vouloir découvrir l'aspect pratique du domaine qui n'est pas vraiment approfondi là, dans le cursus scolaire actuel.
Justement, le milieu du droit du travail touchera pratiquement tout le monde à un moment ou à un autre dans leur vie. Donc, on trouvait cela important là, d'aborder ce qui s'y rattache.
Donc, en bref, là, le Comité de droit du travail a pour but de présenter aux étudiants de la faculté les différents champs de compétences de la pratique qui sont souvent méconnus.
Donc, pour y parvenir, nous avons développé des activités enrichissantes et variées, permettant un apprentissage dynamique et innovant, tout en favorisant les contacts entre les professionnels de ce domaine et les étudiants.
Justement, à titre d'exemple, notre activité « La route des cabinets » qui s'est déroulée le 24 septembre dernier sur l'île d'Orléans a permis aux étudiants d'échanger dans un cadre beaucoup plus convivial avec les avocats des différents cabinets.
Donc, on va maintenant laisser Maître Sainte-Marie se présenter. Maître Sainte-Marie qui sera, dans le fond, notre invité pour le podcast d'aujourd'hui.
Merci. Dans un premier temps, merci de l'invitation, Sabrina et Megan. Ça fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce matin. Je me présente Louis Sainte-Marie. Alors, je suis avocat spécialisé en droit du travail. Je pratique depuis 28 ans ici à Québec, depuis une dizaine d'années au sein du bureau Kane Lamore, qui est un bureau qui s'est développé beaucoup en droit du travail avec une équipe là, d'une plus de 15 avocats spécialisés en la matière juste à Québec, mais une quarantaine au Québec. Et dans mon cas, je suis également, là, j'ai pris charge depuis bientôt 6 ans et je termine mon mandat comme associé directeur du Bureau de Québec. Alors, je conseille des clients en droit du travail, mais j'ai moi-même agi comme gestionnaire de bureau. Je dirais que le premier rôle, je le trouve plus facile que le deuxième, mais ça, on pourra en reparler ce matin.
Donc, bien, en fait, on va maintenant enchaîner tout de suite là, avec une série de questions.
Oui, donc, d'abord, on sait que pour plusieurs étudiants, le choix de leur future pratique peut être difficile, considérant la variété d'options qui nous sont offertes. On aimerait donc savoir qu'est-ce qui vous a poussé à choisir le droit du travail plutôt qu'un autre domaine.
Je constate de votre présentation que vous êtes possiblement rendu beaucoup plus loin dans votre choix que moi, je l'étais lorsque j'étais sur les bancs d'école. Parce qu'avoir su, j'aurais possiblement fait une formation en relations industrielles, sachant que j'allais faire du droit du travail. C'est pas à ça que j'étais destiné. Moi, j'aimais beaucoup le droit public, le droit international. Je me plaisais également dans mon cours de faillite et insolvabilité. Donc, je pensais pas que j'allais aboutir en droit du travail. C'était un peu le droit du travail qui m'a choisi, parce que j'ai fait mon stage dans un plus petit cabinet où la majorité, même la totalité des praticiens exerçant en droit du travail. Dans ce contexte-là, j'ai pu voir la passion de ces gens-là, et c'est vraiment ces gens-là qui m'ont transmis leur passion. C'était du droit du travail du côté des travailleurs et des syndicats à l'époque. Mais peu importe là, la partie qu'on représente, moi, c'est vraiment la matière qui m'a plu et la passion que ces gens-là y mettaient. Et je vous dirais que c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu la piqûre et j'ai jamais changé d'idée à savoir que c'est ce que je voulais faire comme pratique.
C'est super intéressant. Puis justement, je pense que c'est le côté pratique qu'on voit pas beaucoup là, dans les cours. Pour poursuivre, on aimerait ça, maintenant qu'on connaît en fait la raison derrière votre choix de domaine, on aimerait savoir pourquoi vous avez choisi en fait la pratique privée plutôt que le contentieux ou les organismes publics comme par exemple la CNSST.
On se replace. Moi, j'ai fini mon baccalauréat en droit il y a près de 30 ans, donc en 1993, mon barreau en 94. C'est une période difficile. On n'engageait à peu près pas dans les bureaux d'avocats. Si vous regardez, là, dans mes années de pratique, on est très peu encore pratiqué en pratique privée, même dans les contentieux ou dans les organismes publics. Les gens ont pris leur formation en droit et ont, dans le fond, évolué vers d'autres formations. J'ai plein de mes collègues de l'époque qui font d'autres choses maintenant. Leur formation en droit leur sert, mais ils se sont dirigés ailleurs par la force des choses. Alors, je pense qu'à l'époque, pour être en pratique privée, et il fallait, je pense, aimer ce défi-là de rarement être dans sa zone de confort. Il faut aimer l'aspect également de développement d'affaires, développement de relations humaines qui vont en fait vous permettre de prospérer, mais avec des mandats, avec des clients que vous allez accompagner dans toutes les sphères de dans le fond, de la réalité de leur entreprise. Dans mon cas, moi, c'était en conseil en droit du travail. J'ai rapidement là, changé, moi, en début de pratique, un peu par le hasard des choses, pour me retrouver dans un bureau où on faisait du droit du travail du côté des employeurs. Alors, je me suis développé de cette façon-là. Mais est-ce que j'aurais pu, à l'époque, aller en contentieux? Très certainement. Est-ce que, justement, de travailler à la CNSST, j'ai même eu l'occasion même de faire un remplacement. Ça aurait pu être une décision que j'aurais prise à l'époque et je me serais plus là-dedans parce que, fondamentalement, moi, ce que j'aime, c'est la matière qui est le droit du travail. Cependant, avec du recul, avec ce que j'ai pu accomplir les dernières années, j'avais encore une rencontre à Teams ce matin avec un client. J'aime encore ce sentiment-là d'aider, c'est-à-dire de donner un conseil pratique où le client t'appelle en ayant un enjeu et quand on finit l'appel, plus souvent qu'autrement, stratégiquement, il y a la solution, il y a l'approche. On en a discuté ensemble et il est rassuré dans la décision qu'il doit prendre ou dans la mesure qu'il doit imposer, peu importe. Et ça, c'est extrêmement valorisant. Donc ça, cette valorisation-là, faire d'autres choses, j'aurais l'impression que je perdrais ça un peu. Alors c'est pour ça que je me plais encore après 30 ans à continuer à pratiquer en pratique privée et à conseiller des clients en droit du travail.
Oui, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus proche des clients en pratique privée.
Bien, j'ai des collègues, des confrères, consoeurs avec qui je travaille, qui sont en fait un peu mes clients, qui sont des procureurs en contentieux, des avocats qui travaillent en contentieux de municipalité, grande compagnie d'assurance, mais qui vont faire une pratique spécialisée en droit du travail dans ce type de contentieux-là. C'est des gens qui ont le même défi que moi à la nuance près, puis elle est importante, qu'ils ne représentent qu'un seul client. Donc, si vous travaillez au sein d'un contentieux d'une municipalité, vous allez travailler comme avocat auprès de gens de ressources humaines, donc l'équipe du service des ressources humaines, la direction générale de certains services au sein de la municipalité. Alors, ça fait une pratique extrêmement variée, mais avec le défi de travailler avec un seul client. Donc, c'est exigeant. Ce n'est pas une pratique qui est moins exigeante. Ça se rapproche de la pratique privée, mais avec cette nuance-là importante que on n'est pas en développement de clientèle, mais on va être quand même en développement de relations humaines parce qu'on a intervenu avec beaucoup d'intervenants, tout dépendant de l'envergure de l'organisation. Et ça, moi, sans le vivre, je côtoie des gens qui ont cette pratique-là, qui est extrêmement intéressante, mais qui amène un autre défi. C'est-à-dire qu'on, pour moi, là, on est un peu tributaire des dossiers qui nous viennent d'un seul client, qui est notre employeur. J'aime bien, moi, cette liberté-là en pratique privée de pouvoir, justement, être autonome et travailler avec différents clients qui m'amènent dans différentes problématiques ou enjeux qui peuvent être très différents d'une organisation ou d'un secteur d'activité à l'autre. Et ça rend ça extrêmement intéressant.
Puis, vous avez parlé, en fait, là, que vous avez touché du côté travailleur dans votre stage, oui. Mais maintenant, vous êtes du côté employeur. Oui. C'est quoi les pour, les contre de chaque, puis pourquoi maintenant avoir vraiment poursuivi du côté employeur?
Je vous dirais que parce qu'à l'époque, ils ne m'ont pas gardé du côté syndical. Alors, j'avais fait mon stage, j'avais travaillé pendant un an. Et on n'était presque pas à être gardé dans les bureaux. Moi, j'avais réussi à prolonger après mon stage pendant un an. Et pour vous dire, c'est un peu un hasard qui m'a amené du côté patronal parce que j'ai accepté de travailler sur un livre de doctrine à l'époque qui est en santé-sécurité. Et moi, c'était un domaine de la santé-sécurité que je ne connaissais pas. Alors, il n'y avait pas de cours au baccalauréat à l'époque. Donc, j'avais fait mon cours de droit du travail fondamental. J'avais travaillé du côté syndical plus dans des dossiers en application du Code du travail, dossiers d'accréditation, des griefs, donc des relations de travail, davantage du côté des rapports collectifs que les rapports individuels, même si je faisais un petit peu de normes du travail. Et quand je me suis retrouvé en pause, je dirais, hein, on va le dire comme ça, on m'a offert de travailler sur un contrat de livre. J'ai collaboré à un ouvrage de doctrine qui a été publié par l'édition Yvon Blais là, quelques années plus tard. Mais j'ai travaillé, j'ai fait quasiment une mini-maîtrise en santé-sécurité. Et la santé-sécurité, pour me développer, il y avait beaucoup plus d'ouverture du côté patronal. Il y avait beaucoup plus de besoins du côté des employeurs. Souvent, dans les organisations syndicales, c'est pas nécessairement les procureurs qui avaient ces mandats-là. C'était plus des permanents syndicaux. Mais du côté patronal, les employeurs faisaient affaire avec des procureurs spécialisés en la matière. Donc là, je venais d'acquérir une expertise plus pointue. Et ça a comme attiré l'attention sur moi de certains bureaux. Et à partir de là, bien, je me suis retrouvé un emploi du côté patronal. Et j'ai toujours aimé cette relation-là avec le client qui rendait, dans le fond, mon service comme un service de stratège, de conseil, un petit peu à l'intérieur de l'entreprise. À un moment donné, même si j'étais un procureur externe, il y a une certaine... On réussit à créer un lien avec le client, un lien humain, mais un lien professionnel qui fait en sorte que le client prend le réflexe de nous appeler à l'avance, donc de nous consulter avant de prendre une décision ou avant de prendre une orientation. Et ça rend ça très valorisant comme travail parce qu'on a l'impression qu'on est partie prenante à quelque chose de positif. Et ça, bien, comme procureur, d'avoir à vivre cette expérience-là au quotidien, c'est extrêmement gratifiant puis valorisant. Moi, j'aime encore ça 30 ans plus tard, donc... Ça doit être la bonne décision que j'ai prise à l'époque. Mais rien ne m'empêcherait. Je pense que j'aurais été heureux du côté syndical aussi. Là. J'ai des collègues, j'ai des confrères qui sont de l'autre côté, mais que je vois que leur réalité n'est pas très, très différente de la mienne, sauf que eux autres vont conseiller des grandes centrales syndicales, des salariés. Ça va amener d'autres enjeux qui vont être différents des miens, mais ça converge en quelque sorte.
Donc, on sait qu'un gros mythe qui subsiste là, par rapport au droit, c'est vraiment que les avocats sont souvent amenés à aller régulièrement devant les tribunaux. Donc, on aimerait savoir si, de votre côté, vous plaidez régulièrement.
Oui. En droit du travail, si c'est un domaine qui vous intéresse, puis manifestement, à titre de coprésident du comité de droit du travail de la faculté de droit de l'Université Laval, ça doit vous intéresser. Donc, je pense que... L'attrait et, entre autres, le fait de pouvoir faire des représentations. Moi, j'avais fait mes concours de plaidoirie à l'époque. C'est quelque chose que je voulais faire. Donc, c'était un secteur de droit qui pouvait m'amener à plaider rapidement. Et dans ce secteur de droit-là, de développer une expertise en santé et sécurité au travail, ça va vous amener à plaider plus rapidement parce que ça interpelle une pratique de volume où on va vous offrir des opportunités d'aller plaider. Alors que en relation de travail, en rapport collectif, on travaille davantage à On est beaucoup en mode conciliation. Même si on lance santé et sécurité, c'est encore plus vrai du côté des rapports collectifs. Donc, oui, j'ai plaidé beaucoup avec un volume d'ouvrages important début de pratique, mais je vous dirais que ça change. Moi, ça a changé dans les dernières années, là, et je le constate là, que ma pratique a évolué vers d'autres choses.
Mais justement, tant qu'être dans la pratique de volume, est-ce que c'est possible de détailler un petit peu les distinctions entre les deux, puis ce que vous avez ressenti là, dans les deux?
Bien, il y a des domaines qui vont amener cette pratique de volume. On parlait de la santé-sécurité. Nous, on travaille avec des clients qui sont dans des domaines où il y a un volume important de travail. Alors, ça pourrait être de vous donner des occasions, dans le fond, d'aborder des dossiers, de plaider des dossiers. Et du moment où on comprend bien la mécanique, entre autres dans les dossiers de réparation, au sens de la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles, bien, vous allez développer rapidement une expertise. Les tribunaux vont vous connaître. Votre nom va circuler comme étant quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine-là. Et bon an, mal an, vous allez avoir un volume d'ouvrage plus important. Donc, ça a pour effet d'avoir un agenda souvent qui va être rempli 6 mois, 8 mois, 10 mois à l'avance. Ça amène à la fois une pression, mais pour certains, même pour plusieurs, ça amène également ce qu'on appelle une sécurité, parce que on a toujours on a un petit peu tous ce dénominateur commun-là, les avocats en pratique privée, d'avoir une certaine anxiété quant au manque d'ouvrage. On veut toujours avoir du travail. Donc, quand on a une pratique de volume, bien, l'agenda est plein, le bureau est plein de dossiers et on manque pas de travail, mais c'est un défi d'être capable de suivre ce rythme-là pendant plusieurs années. Et ça peut être un piège aussi, parce que ça peut être un piège où, après plusieurs années, on est dans nos pantoufles, on est dans des dossiers qu'on connaît, où on est habitué, mais le challenge n'est plus là. On est dans une zone de confort, on est bien, on est confortable, on n'en sort pas. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir une occasion de prendre un poste de direction à mon bureau comme associé directeur il y a 6 ans. Ça m'a obligé à sortir de ma pratique de volume. J'avais déjà commencé à migrer vers ça, mais à déléguer davantage de dossiers à d'autres ressources de mon bureau qui en ont pris charge de très belle façon, mais qui m'ont libéré du temps. Alors là, je vois mon agenda, il est pas plein. Là. J'ai des journées de libre là, dans une semaine. Mais je dirais pas miraculeusement, mais heureusement, elle se comble par le fait que j'ai une disponibilité pour mes clients qui vont dire « Écoute, j'ai telle problématique ». En droit du travail, c'est pas dans 2 semaines. Là. Je veux dire, quand le client t'appelle, c'est parce qu'il veut te parler aujourd'hui, parce qu'il y a une décision à prendre aujourd'hui ou demain. Alors, il faut que tu aies une disponibilité. Alors, je me rends compte que de m'être libéré de cette pratique de volume-là m'amène à pouvoir développer avec le client une relation conseil encore plus forte parce que j'ai davantage de disponibilité. Puis moi, ça m'a ouvert un autre aspect qui est la négociation. Donc, ça, c'est des dossiers que je faisais un petit peu moins par les années passées, mais parce que j'ai plus de disponibilité, je suis en mesure d'accepter ces dossiers-là. Alors, moi, mon conseil, c'est la pratique de volume en début de carrière, c'est excellent parce que vous allez pouvoir être formé avec un volume d'ouvrages important, puis développer rapidement votre expertise, puis votre réputation, votre rayonnement dans un domaine. Le défi étant, à un certain moment, 10, 15 ans de pratique, 20 ans de pratique, d'être en mesure d'en sortir progressivement, de déléguer cette pratique-là à d'autres qui vont pouvoir se faire les dents de la même façon que moi, je me suis fait les dents à l'époque, et faire un peu ce saut-là, je dis pas vers l'inconnu, mais vers d'autres choses, où on a moins cette sécurité-là d'un agenda bien rempli, mais aussi une disponibilité client pour prendre d'autres types de mandats et relever d'autres types de défis. Et c'est pas mauvais de se renouveler, c'est pas mauvais de sortir de sa zone de confort. On a tendance, l'humain, à y rester, mais quand on se précipite dans des et qu'on se fait confiance, ben ça nous réussit.
Ça amène des nouveaux défis aussi, j'imagine, quotidiennement.
Tout à fait.
Puis, pour poursuivre, en fait, là, on sait que vous pratiquez majoritairement au niveau des relations de travail ainsi qu'en santé et sécurité, mais on aimerait ça savoir, c'est quoi la situation que vous rencontrez le plus fréquemment dans votre quotidien?
Actuellement, là, on sort d'une période particulière. Qui a beaucoup impacté les entreprises, les organisations. La pandémie a amené une refonte de la façon dont les organisations fonctionnent, tout ce qu'on a, les paradigmes en matière de relations employeur-employé ont été modifiés. le monde du travail a changé, et drastiquement et rapidement, et ce, dans une période de crise. Donc, quand on ajoute une situation économique difficile au niveau inflation, mais des entreprises qui ont des carnets de commandes bien remplis, et qu'on ajoute à ça une situation de pénurie de main-d'œuvre qu'on voyait venir il y a 30 ans, qu'on savait que dans les années 2020, on allait connaître cette situation-là au Québec, mais tout ça arrive en même temps, bien, je vous dirais que c'est dans ça qu'on est avec nos clients actuellement. Dans ce défi-là d'être capable de produire, d'être capable de recruter, mais surtout un enjeu de rétention de main-d'œuvre. Alors, je dis souvent, quand je suis en mode de négociation de convention collective, je représente des employeurs. Mes clients me disent, on comprend, Louis, qu'on n'a pas le gros bout du bâton. Je dis, non, vous n'avez pas du tout le bâton. Actuellement, le rapport de force, il est pour les salariés, il est pour les travailleurs. Personne ne doit en abuser, mais il y a un équilibre à trouver. Puis pour les employeurs, c'est une période difficile dans la capacité de trouver cet équilibre-là dans leur façon de gérer leur entreprise. Il y a des défis également humains très forts. Beaucoup de dossiers de climat de travail difficiles. On voit que ça a ébranlé les colonnes du temple quant au quotidien des employés. Beaucoup de gens, le télétravail versus le présentiel ou des modes hybrides de fonctionnement. On est on est beaucoup à essai-erreur actuellement dans le monde du travail. Donc, et nous, comme praticiens, bien, ça va amener des enjeux de santé et sécurité, mais des enjeux de gestion d'entreprise, de subordination, de recrutement, de rétention, des enjeux financiers importants également. Donc, actuellement, là, on gère beaucoup ces aspects-là de problématiques de pénurie de main-d'œuvre où on accompagne nos clients. On demande beaucoup de flexibilité opérationnelle parce qu'on sait qu'il va y avoir des coûts élevés au niveau de la main-d'œuvre. Donc, c'est le contrepoids que les employeurs recherchent. Et on a beaucoup d'enjeux de climat de travail difficile, beaucoup de plaintes de harcèlement psychologique, de problématiques, d'enjeux de santé mentale au travail. C'est des dossiers qui sont pas faciles à gérer pour les employeurs. Et ça, on voit que dans les stratégies, comment aborder ces situations-là, il y a des éléments, bien évidemment, qui sortent de notre champ de compétences, qui sont propres aux gens qui sont justement en ressources humaines. Mais ces gens-là nous consultent quant à l'aspect juridique de la chose et comment on peut les conseiller en conséquence. Mais ça, c'est des dossiers qui sont pas faciles, qui sont émotivement chargés. Alors, ça nous demande aussi d'avoir beaucoup d'écoute auprès des clients, d'être capable de bien les diriger dans ce type de dossier-là.
Mm-hmm. Puis on a glissé un petit mot là, sur le télétravail. Est-ce que c'est encore un enjeu en ce moment?
C'est énorme comme enjeu. Okay. Puis c'est variable. Quel genre d'hiver on va avoir? On verra bien. Là, on pense qu'on est revenu à quelque chose de plus normal. Mais on a joué au yo-yo beaucoup là, les derniers mois. Je vous donne juste un exemple. Plusieurs bureaux d'avocats, tout le monde était parti pour être en télétravail pratiquement à temps plein. Là, les gens, certaines organisations, c'est notre cas, on a migré vers un mode plus hybride. Puis là, j'entends là, certains des compétiteurs qui ramènent les gens au bureau. Là. Donc, on cherche un peu nos... On cherche notre X, là. On cherche une certaine stabilité parce qu'on se rend compte que le télétravail a du bon, mais a ses limites. A ses limites quant à notre capacité de travailler en collégialité, a ses limites quant à notre capacité d'être capable de détecter des situations puis des enjeux puis de les prévenir plutôt que d'être toujours en mode curatif. Donc, puis comment aussi on peut s'assurer, si les gens sont en télétravail, que on garde le ciment intact et qu'on fait en sorte que la rétention demeure. Alors là, les entreprises, les organisations, que ce soit dans le monde juridique, mais beaucoup dans les entreprises de service, se questionnent sur ces enjeux-là. Puis vous allez voir, dans les prochaines années, on va changer la façon dont on travaille sur place. Donc là, on va bâtir des zones de travail en collégialité. On va encourager les gens à travailler ensemble quand ils sont au bureau, alors que le travail va se faire sur une base plus individuelle quand ils sont à l'extérieur. Teams a ses limites, Zoom a ses limites, mais ça nous a sauvés les dernières années, mais ça a quand même ses limites par rapport au fait qu'on est des humains qui travaillent avec des humains, puis on a besoin de ce contact-là. Là, on se rend compte que les organisations constatent ça depuis les derniers mois. On va voir comment ça va évoluer, mais pour nous, là, en droit du travail, ça amène des beaux défis. Puis c'est intéressant parce qu'on accompagne nos clients dans ces changements-là, dans cette évolution sociale-là.
Justement, là, vous avez parlé que votre travail... des humains qui travaillent avec des humains. On aimerait savoir, dans le cadre de votre pratique quotidienne, est-ce qu'il y a beaucoup de collaborations avec d'autres professionnels ou d'autres?
C'est une pratique... Le défi de la pratique en droit du travail, c'est de la rendre collégiale. OK? Parce que quand vous avez un dossier qui vous est confié pour une audience, c'est vous qui plaidez. C'est souvent individualisé comme mandat. Quand on a un mandat de négociation, de convention collective, aussi intéressant soit-il, on est également souvent dans des situations où l'avocat qui est mandaté va faire le dossier seul. Donc, on a une pratique qui nous amène, puis faut m'en aller dire la réalité des choses, nous amène à pratiquer plus en solo. Alors, il faut combattre ça. Comment on fait ça? Beaucoup par de la formation. OK? C'est-à-dire qu'on va aussi développer, et je pense que tous les praticiens en droit du travail le font, développent également une pratique de formation auprès des clients. Et ça, bien, l'occasion de former des clients à plusieurs ressources va faire en sorte qu'on va préparer une formation ensemble, on va travailler de pair avec nos collègues pour monter une formation pour les clients. Fait que moi, je vois dans l'aspect formation une occasion en or de travailler en collégialité. Il y a certains dossiers... Dernièrement, j'ai eu un dossier plus stratégique pour un client qui demandait justement cette réflexion-là à plusieurs. Et ça c'est... Et j'ai eu l'occasion de travailler avec un avocat avec qui je travaille depuis 25 ans. On avait moins l'occasion de travailler ensemble les dernières années, puis de retrouver ce plaisir-là que j'avais, moi, en début de pratique, où je cognais à sa porte quotidiennement pour avoir son conseil. Je voyais comment c'était plaisant de pouvoir échanger, de se confronter sur notre lecture d'un dossier, notre analyse et les différentes stratégies qu'on pouvait mettre de l'avant. Donc, je pense qu'il faut se donner ce devoir-là de travailler en collégialité. Moi, je le fais beaucoup en intégrant de plus jeunes ressources dans les dossiers, pas juste en disant « pourrais-tu faire une recherche sur tel aspect », mais vraiment lui disant « voici le dossier, voici l'enjeu, voici la démonstration que je pense qu'on devra faire ». Réfléchis, regarde ça, reviens-moi, puis après ça, on en reparle, pour que, moi, j'apprécie beaucoup en début de pratique, sentir que même quand je faisais une recherche jurisprudentielle, j'étais partie prenante au dossier. Quand on venait le temps de parler au client, j'étais sur l'appel, donc je pouvais exprimer, moi, l'analyse que j'ai faite. Je tente de faire la même chose avec les plus jeunes ressources avec lesquelles je travaille, parce que c'est comme ça qu'on gagne en confiance, pas en expérience, puis qu'après ça, on est capable de voler nos propres ailes.
Oui, ça rend ça beaucoup plus intéressant aussi, j'imagine.
J'ose croire que oui.
Puis, en fait, au niveau de la santé-sécurité, là, c'est sûr qu'on a parlé plus de la collaboration avec les membres du cabinet, oui. Mais santé-sécurité, moi, personnellement, j'ai une formation en sciences humaines, donc la santé, c'est pas quelque chose qu'on connaît. Est-ce que vous êtes appelé à discuter souvent, par exemple, avec des professionnels comme les médecins?
Bien, c'est ce qui me passionne dans ce domaine-là, parce que c'est du médical. Mm-hmm. Et ça vous donne l'occasion, justement, de travailler dans des dossiers avec des experts. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans des dossiers de lésions musculo-squelettiques. Alors, le champ spécialisé, c'était celui de l'orthopédie, des médecins du travail, donc des gens qui ont... Et qui sont souvent des excellents vulgarisateurs. Donc, avant de vulgariser devant la cour, ben, ils vulgarisaient avec moi, ce qui me permettait, moi, d'apprendre, sans faire mon cours de médecine, mais d'apprendre des notions médicales. Parce que quand vous êtes procureur et que vous avez un témoin expert, faut comprendre. Faut être capable de saisir toutes les nuances de ce qui est son expertise et ce que sera son témoignage d'expert. Pour être en mesure de l'accompagner, pour être en mesure de le recadrer au besoin ou de le rediriger par vos questions, vos interventions, vous devez comprendre ce qu'il va livrer comme témoignage, ce qu'il va livrer comme expertise. Donc, ça vous oblige à être extrêmement à l'écoute et à poser des questions et dans la préparation à vous assurer de cette compréhension-là des concepts médicaux. Ça rend ça très intéressant.
Super. Bien, en fait, je crois qu'on va quitter pour une courte pause.
Excellent. À plus tard.
Motherfuckers on the side, on reste positif, on garde le focus sur le prize.
Écoute locale avec Cheese 94.3.
L'art des histoires. Une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussions, analyses, invités, interviews et défis de la semaine.
Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Cheese 94.3 avec Cédric.
Et moi-même, Louis-David Gingras. Un réel délice.
The following program is disturbing.
Crash Crowd.
Mardi 20h.
Cheese 94.3.
Découte!
Et les cendres entre tes mains.
Bonjour, de retour à Droit de parole avec notre invité Maître Sainte-Marie. Donc, juste avant la pause, là, on a discuté là, de l'aspect plus médical de la pratique. J'aimerais savoir, au début, j'imagine que vous n'aviez pas vraiment de connaissances là-dedans. Est-ce que ça a été un enjeu? Est-ce que ça, c'était plus difficile maintenant?
Oui, ça l'était parce que on pratique en santé et sécurité. La première fois qu'on lit un dossier constitué par le tribunal, Il y a des rapports médicaux, il y a des termes médicaux qu'on comprend pas. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai un dossier, par exemple, d'un syndrome du tunnel carpien, j'ai aucune idée c'est quoi. Donc, c'est là que ça devient... Alors, on lit naturellement dans la jurisprudence, on va voir des témoignages qui sont repris d'experts, donc on comprend un peu plus c'est quoi les enjeux, où ça se situe, dans ce cas-ci, c'est au niveau du poignet. Bon, et là, c'est vraiment quand on va travailler le dossier avec un expert... soit dans le cadre d'un rapport d'expertise sur dossier ou d'un témoignage à l'audience, qu'on va poser nos questions. Et il faut poser nos questions pour comprendre. En fait, si nous, on ne comprend pas, on se dit le tribunal ne comprendra pas non plus. Donc, il faut dans un premier temps s'assurer que notre expert va être en mesure d'expliquer les choses et qu'on va être en mesure de les comprendre. Alors, c'est très enrichissant parce qu'on sort de là, de ces rencontres-là avec des connaissances qu'on n'aura jamais sur les bancs d'école, mais qu'on va apprendre. Puis c'est pas différent de par exemple, et c'est la beauté en droit du travail. Moi, j'ai des clients qui font du vitrage scellé pour les édifices, pour commerciaux ou résidentiels. J'ai des clients qui dans le fond, font de l'abattage et de la découpe de viande de porc et de poulet. OK? J'ai des clients qui sont dans le domaine de la pharmacie, d'autres qui sont des entreprises en assurance, des municipalités, des services de pompiers, policiers. Alors, c'est extrêmement varié. Et quand on négocie, par exemple, pour une entreprise qui fait la transformation de bois, bien, vous allez visiter l'usine, vous allez comprendre les procédés, on va vous expliquer. C'est pas du droit là, qu'on fait. Mais il faut comprendre comment l'entreprise fonctionne, parce qu'après ça, quand ils vont nous parler de tels enjeux, il faut avoir au moins une base de compréhension de leurs enjeux au niveau de leur production. Quand moi, je négocie pour un client, il faut que je sache c'est quoi le client il fait, puis quand on va parler de quelque chose à la table, je vais comprendre ce qui va se passer. Je ne suis pas un spécialiste, mais il faut que j'aie une compréhension minimale. Alors, il faut que vous soyez curieux, il faut que ça vous intéresse, mais quand ça, vous voyez que ça allume chez vous quelque chose, vous êtes dans le bon domaine. C'est bon signe.
Donc, en fait, le Mégane et moi, en ce moment, on est dans votre cours de santé et sécurité. Mm-hmm. Puis, on se questionnait sur qu'est-ce qui vous a mené à aller vers l'enseignement en plus de la pratique en cabinet.
Bien, bon, je pense qu'il faut aimer être un communicateur hein, pour enseigner. Fait que, à la longueur de mes réponses, j'aurais compris que pour moi, c'est pas contre nature. Moi, ce qui me fait sourire, c'est que j'ai mon défunt père a été professeur à l'Université Laval ici pendant 33 ans. Pas du tout dans le même domaine. Lui, il était en technologie de l'enseignement et en art, mais ça doit être un peu dans mes veines. Puis j'ai eu l'occasion d'enseigner une douzaine d'années à l'École du Barreau. Un peu plus en début de pratique. Ça faisait une dizaine d'années que j'avais arrêté. Donc, quand on m'a approché, il m'a dit ben, il y aurait un cours là, de santé-sécurité cet automne. J'ai tout de suite vu l'intérêt à reprendre un peu le collier d'enseignant, mais je l'avais jamais fait à la faculté. Je trouve le défi extrêmement intéressant, beaucoup plus exigeant qu'au barreau, parce que en fait, on a une liberté, naturellement, à l'intérieur des cadres de la matière, là, mais là, c'est un cours sur 15 semaines, là. Donc avec les examens. Alors, c'est vraiment un défi plus grand, mais je trouve ça super intéressant. J'espère que c'est réciproque, mais en ce qui me concerne, c'est de pouvoir un peu redonner en permettant à des futurs avocats de se former dans ce domaine-là, moi, qui me passionne. Ce que je cherche, là, au-delà des apprentissages, c'est de transmettre ma passion de ça. Alors, si ça peut éveiller certains à dire, lui a l'air à trouver ça intéressant, il m'explique pourquoi, je vais aller tenter l'expérience, je vais mouiller dans ces eaux-là pour voir si je suis bien moi aussi, ben tant mieux. Parce que dans ce métier-là, on est privilégié de faire ce qu'on fait, d'être capable avec notre tête de conseiller des clients par rapport aux apprentissages qu'on a. C'est vraiment, dans le fond, exceptionnel de pouvoir faire ça, puis il faut être conscient de la chance qu'on a, mais il faut que ça nous passionne. Et que ça nous passionne, pas tous les jours, la passion, là, mais il faut qu'elle soit là pas mal tout le temps pour que ça nous amène vers l'avant. Ben moi, c'est un peu de sortir de ma zone de confort d'enseigner, là, mais je l'ai retrouvé rapidement. Mais je trouve ça extrêmement plaisant et valorisant de pouvoir communiquer mon savoir puis de donner, si je peux, un aspect plus pratique, donner des exemples plus concrets, vous faire voir la matière d'un autre angle, puis qui va, dans le fond, vous permettre de faire vos choix correctement par rapport à votre avenir.
Bien, je pense que vous avez bien rempli là, vos objectifs là, oui, concernant la transition de votre passion. Mais dans le fond, dans l'objectif déclaré, ceux qui n'ont pas encore fait le cours de droit du travail, est-ce que c'est possible de nous détailler si les relations entre les employés et employeurs sont différentes dans un milieu qui est syndiqué?
C'est différent. Parce que l'organisation du travail... En fait, je vais le dire autrement, on est pour bien des raisons historiques et sociales, un milieu au Québec extrêmement syndiqué. Donc, je ne sais pas les dernières statistiques, mais toujours compris qu'entre 40 et 45 % de notre main-d'œuvre au Québec est en rapport collectif, donc par des associations de salariés accréditées. Ça a comme avantage de mieux organiser les relations de travail. Naturellement, bien des employeurs y voient là un désagrément du fait que la loi du nombre et le fait que les gens se réunissent pour négocier collectivement leurs conditions de travail rend le rapport de force à l'avantage des salariés syndiqués. Mais une fois qu'on s'est éloigné là, de ces principes-là, de ces prétentions-là, il en demeure pas moins que... Moi, j'ai jamais vu d'un mauvais œil chez un de mes clients d'avoir une association de salariés accréditée, surtout que les relations de travail ont beaucoup évolué depuis 30 ans. On travaille davantage en collaboration, tant du côté des instances syndicales que des instances patronales. On ne recherche pas nécessairement le conflit. On travaille beaucoup plus en négociation raisonnée, en résolution de problèmes. Donc... Et on le voit ça notamment dans les mandats de négociation où, au lieu d'arriver de part et d'autre avec des positions fermes puis essayer de trouver un juste milieu entre nos positions, on va davantage discuter des problématiques, de se mettre d'accord sur les enjeux. Et à partir de là, les solutions vont couler de source. Donc ça rend le travail davantage un travail de collaboration, de conciliation, de négociation qu'un travail d'affrontement. Donc, dans ce contexte-là, d'être en rapport collectif, c'est pas un désavantage, bien au contraire. En rapport individuel, tout dépendant du type d'entreprise, de plus en plus, les grandes organisations, même s'ils sont en rapport individuel, ils n'ont pas d'association salariée accréditée, vont avoir des politiques d'entreprise, des conditions de travail dans le cadre de politique, de recueil de conditions de travail. C'est pas négocié, mais on tend à vouloir avoir des conditions de travail équitables entre les différents salariés pour permettre justement, sans qu'il y ait une négociation collective, mais qu'il y ait quand même une équité, que ça soit égalitaire et qu'on ait quand même un mode organisé des relations employeur-employé. Alors, on va retrouver dans plusieurs grandes organisations non syndiquées un type d'organisation du travail qui semble pareil à ce qu'on retrouve en rapport collectif, va ressembler dans cette volonté des parties d'avoir des relations plus ordonnées, dans lesquelles les gens vont pouvoir s'y retrouver, évoluer correctement et avoir des repères. Mm-hmm. Des repères collectifs et non pas individualisés à chacun des salariés. Donc ça on le voit, cette évolution-là, dans le monde du travail dans les dernières décennies.
J'imagine que dans un cadre où est-ce qu'on a vraiment un manque de main-d'œuvre, j'imagine que le fait d'avoir des conditions augmentées pour les salariés, c'est sûr que ça doit aider au niveau de la rétention.
Effectivement, là, je veux dire, comme je vous disais tantôt, on vit une situation, puis c'est pas une situation qui va se résorber en quelques mois. Là. On est dans une ère de quelques années où il y a des défis de main-d'œuvre extrêmement importants. Ça amène des défis, on l'a vu dans la dernière campagne électorale, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais ça amène un défi par rapport à la main-d'œuvre immigrante, notamment. Donc, pour les employeurs, là, ce défi-là, il n'est pas différent qu'on soit en rapport collectif ou en rapport individuel. Et ça ne change pas, là, cette réalité de la pénurie de main-d'œuvre. Et quand on va être en rapport collectif, bien, il va y avoir un travail qui va se faire de pair également avec l'Association de salariés accrédités pour relever ces défis-là. Puis qu'on va être en rapport individuel, je veux dire, ça ne changera pas la réalité et les démarches que l'employeur va devoir faire pour acquérir une nouvelle main-d'œuvre, surtout quand on parle de main-d'œuvre immigrante, avec les défis d'intégration de cette main-d'œuvre-là dans l'organisation. Donc ça, peu importe le type de mode de négociation des conditions de travail, ces défis-là sont entiers actuellement.
Puis on a glissé un petit mot tantôt là, sur la collaboration qui est de plus en plus mise en place là, au niveau de la relation employeur-travailleur avec les modifications apportées au code de procédure civile. Justement, je pense qu'il y a l'accent aussi qui est mis beaucoup sur les modes de prévention des règlements des différents.
On le voit partout, effectivement.
Puis on voulait savoir, tu sais, est-ce que de votre côté, en fait, là, est-ce que vous réglez beaucoup de dossiers hors cours?
En droit du travail, c'est là depuis plus longtemps, d'accord. Okay. C'est-à-dire que les fameuses là, conférences de règlement qu'on retrouve au niveau civil, qui ont été mis de l'avant là, de façon plus importante dans les dernières années. On avait déjà au sein des instances spécialisées en droit du travail des processus de médiation-conciliation qui étaient même là, prévus au texte de loi. Que ce soit là, au sein du tribunal administratif du travail, de la CNSST, des différentes instances qui les ont précédées, on retrouvait ces forums qui permettaient aux parties, là, qui, sans forcer la main, incitaient les parties à regarder l'aspect là, règlement de dossier. Il faut comprendre également que, je vous dirais, à l'exception des dossiers de fin d'emploi, là, de cessation d'emploi, on est toujours en relation continue. Quand on a un enjeu sur une interprétation d'une clause de convention collective, sur une mesure disciplinaire ou une mesure administrative qui est imposée par l'employeur et qui est contestée, il va y avoir un lendemain à ça. Mm-hmm. Dans le fond, les gens vont devoir continuer à évoluer ensemble. Alors, avant d'aller devant les tribunaux et d'en faire un enjeu et qu'on va avoir une décision qui va manifestement pas plaire, en tout cas à l'une des parties, on va rechercher un mode de règlement. Et on va, dans le fond, même être dans... Et comme procureur, comme avocat spécialisé, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, il faut avoir en tête qu'on doit aussi aider notre client à se diriger vers cette voie-là, sans forcer la main, mais à toujours avoir cette option-là qu'à un certain moment dans le dossier, ça peut être au départ, des fois c'est à quelques jours de l'audience, le matin de l'audience, mais la porte de côté qui va s'ouvrir sur un règlement, il faut être conscient qu'elle est toujours là, sans la forcer, mais sans non plus la garder fermée. C'est notre rôle comme procureur d'amener le client vers ça. Moi, je vous dirais, puis ça ne serait pas différent si vous interviewez ce matin n'importe qui de mes confrères, consoeurs dans le domaine, c'est 80-90% des dossiers qu'on règle. On va plaider, oui, plusieurs dossiers, mais la grande, grande majorité, on est en mode règlement, puis on essaie de trouver une solution non judiciaire au règlement. Et quand on comprend ça tôt dans notre pratique, on s'ajuste à cette réalité-là. On peut être de, je pense qu'on peut être de meilleurs conseils pour nos clients et les amener vers cette voie-là. Donc, on voit que c'est maintenant vraiment devant les tribunaux civils, cette tendance-là, elle est plus lourde, positivement, là, dis-je bien. Mais déjà dans le monde du travail, par la nature continue des relations qu'entretiennent les parties, c'était déjà fortement encouragé et ça n'a qu'accentué là, dans les dernières années.
Savoir, en fait, quels conseils vous donneriez à un étudiant qui aimerait se diriger en droit du travail?
Plusieurs conseils. Ben, un, de prendre le temps de découvrir ce monde-là, donc d'être ouvert d'esprit. Ça veut dire questionner, ça veut dire écouter. C'est un peu notre défaut, les avocats, le manque d'écoute. Je dis pas parce qu'on est des communicateurs, mais le fait d'être des communicateurs ou des plaideurs, des négociateurs, ne devrait pas nous empêcher d'écouter. Puis quand on comprend ça le plus rapidement possible, si possible dans notre pratique, on devient meilleur parce qu'on va être capable de détecter des choses, on va comprendre mieux les besoins du client, on va comprendre mieux ce qui se passe, par exemple, dans une audience qui va faire en sorte que notre stratégie devrait bifurquer ou on devrait rester dans ce qu'on a déterminé à l'avance. Donc, pour revenir à votre question, pour montrer que je vous écoute bien aussi, je pense que c'est un domaine qui est moins flamboyant que d'autres, quand on le connaît pas, qui va peut-être moins attirer les gens à prime abord. Mais que si on s'y intéresse, qu'on s'y investit, au niveau de ce que ça apporte dans les relations humaines, parce qu'on est dans des problèmes humains tous les jours. Donc, si ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est le bon domaine. Parce qu'on va vraiment être dans des situations où au-delà du conseil juridique, il y a toujours une réalité humaine qui fait en sorte que, je vous donnais un exemple, on était à discuter d'une situation de transfert d'employés entre deux sous-traitants de mon client. Et naturellement, le sous-traitant qui perd le contrat, lui, ben, il n'est pas très heureux de la situation. Et veut donner des avis de licenciement collectif aux gens. Donc, techniquement, ça pourrait être une avenue pour que lui se libère de ses obligations puis s'assure que il s'est assuré qu'il a, dans le fond, répondu à ses obligations légales au sens de la loi sur les normes du travail. Mais ce que ça crée, puisqu'on s'est rendu compte en discutant justement entre procureurs des différentes parties impliquées, c'est que ça va créer une insécurité psychologique chez les gens parce que les gens vont être repris par le nouveau sous-contractant, mais en leur envoyant un avis de licenciement collectif, là, il y a des gens qui vont interpréter que c'est leur fin d'emploi, ils ne comprendront pas. Donc, là, si on veut faire ça, il y a tout un exercice de communication. On est-tu encore en droit? On s'éloigne un peu, mais on n'est pas loin non plus. Mais vous voyez que derrière le conseil juridique pur de dire « envoie un avis de licenciement collectif de 8, 12 ou 16 semaines », on crée ici une situation d'insécurité chez les employés qu'on ne veut pas créer, personne. Donc, est-ce que la solution est bonne? Si on prend cette solution-là, bien, trouvons une façon de le faire pour, dans le fond, baisser le niveau d'insécurité que ça peut créer. Ayons un plan de communication conforme. Alors, vous voyez un peu que un problème juridique pur, puis la solution juridique parfaite à un problème juridique pur sera possiblement ou peut-être pas la bonne, dans la mesure où il y a des impacts humains. Je dis souvent, là, un client va avoir eu raison de prendre une décision par rapport à une fin d'emploi d'un employé, mais la façon dont il s'y est pris, le discours qu'il a tenu, les gestes qu'il a posés sont mauvais ou n'ont pas été faits de la bonne façon. Donc, même si fondamentalement il avait raison, la façon de faire n'est pas la bonne. Donc, ça, il y a du conseil qu'on peut donner là-dessus. Et c'est souvent ce qui va faire la différence. Tu avais raison sur le fond, mais pas sur les moyens utilisés. Et c'est les moyens utilisés qui vont souvent créer le litige qu'on aurait pu éviter autrement. Donc, ça, c'est vraiment ce qui doit, je pense, être pris en compte. Puis, pour quelqu'un qui veut faire ce type de pratique-là, d'aimer l'aspect terrain, l'aspect factuel, l'aspect humain, vous allez vous y retrouver là, de belle façon, ça, j'en suis convaincu.
Mais c'est super intéressant aussi parce que,
En rentrant en droit, souvent, ce qu'on entend parler, c'est que les gens veulent aider, viennent en droit pour aider les autres parce qu'ils ont une volonté. Donc, c'est quand même intéressant de voir le côté terrain, le côté pratique, oui. Vraiment, puis qu'on ne fait pas juste appliquer la loi, mais on va vraiment chercher là, l'intérêt de la personne derrière ça. Et ça, même du côté employeur. Je pense que c'est quelque chose que je ne me serais pas attendu personnellement.
On a les employeurs, je veux dire, les gens qui sont... Vous avez une formation en relations industrielles, mm-hmm. Moi, mes clients, c'est la plupart du temps des gens qui ont une formation en relations industrielles. Donc, eux, toute la psychologie d'entreprise, l'approche humaine, ils ont développé, c'est eux autres qui ont la compétence là-dedans. Moi, j'ai appris beaucoup à travailler avec ces gens-là sur la façon d'aborder un dossier. Et on se rend compte que sans être sympathique, mais d'être empathique, d'être compréhensif des enjeux qu'un salarié peut vivre dans une situation donnée, ça va aider à mieux gérer le problème. Donc, il s'agit de ne pas le faire une fois pour l'apprendre. Alors oui, il y a de l'humain. Il y a de l'humain partout. Et il n'y a pas plus d'humain parce qu'on est syndical ou travailleur que du côté employeur. Si c'est le cas, on aura de la difficulté à continuer à évoluer dans ce domaine-là. Mais moi, ce qui me passionne, c'est ça. C'est vraiment le fait que c'est un droit qui nous amène à être en relation humaine à tous les jours. Et ça, c'est palpitant.
De questions. Donc, merci beaucoup d'avoir participé au podcast. On était vraiment contents de vous recevoir. Ça a été super intéressant, les discussions, autant que ça l'est en classe.
Merci beaucoup. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci de l'invitation. Et si ça a pu donner... semer une graine de passion chez les gens pour faire leur carrière dans ce domaine-là, j'aurais réussi un peu par mes propos ce matin à créer cet engouement-là pour la matière. Merci.
Merci. Mais merci beaucoup. Donc, en terminant, on va juste vous mentionner là, les activités prochaines de notre comité. En fait, on a une soirée, le Caout Cocktail, qui s'en vient bientôt. Donc, ce sera l'occasion là, de poser vos questions à des avocats en droit du travail. On sort vraiment là, du cadre conférence habituelle. Puis, ça va être vraiment là, beaucoup plus participatif. Ensuite, on va avoir des capsules informatives là, qui vont être publiées sur nos réseaux sociaux. Donc, restez à l'affût.
Sinon, on prévoit aussi là, faire un parrainage dans les mois à venir, ainsi qu'une simulation. Donc, pour vraiment aller chercher le côté pratique du droit du travail. Donc, en terminant, là, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Droit de parole. Donc, merci beaucoup, Maître Sainte-Marie, d'avoir été présent pour le podcast. Puis on va enchaîner là, avec la prochaine.
Écoutez Chiz 94.3 FM Québec.
Pour tout savoir sur la vie artistique locale, Chérie J'arrive, c'est l'émission culturelle par excellence. Tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, moi-même, Andréane Desmeules, et mon équipe de chroniqueureuses, on jase de musique, théâtre, littérature et autres niaiseries. Promis, on te parlera pas de météo et t'entendras toutes les tournes de l'heure. Chérie J'arrive, c'est tous les jours de semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Schiste 94.3.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les jeudis matins de 9h à 11h sur les ondes de Cheese 94.3 avec Augustin Becci.
Allô tout le monde, c'est Mathieu Dufour, fier porte-parole de l'Opération Nez Rouge. C'était impossible de faire une pub radio sans que je fasse une chanson, fait que ça part! Mario est ben gorlo, José est sur le party, Robert y voit plus clair, y'a personne qui peut chauffer. Le Carole à bénévole qui débarque en fin de soirée pour les raccompagner en toute sécurité. 1-8-6 Desjardins. Faites-moi confiance, la gang, venez l'essayer. Opération Nez Rouge, là, vous pourrez plus vous en passer. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station.
Depuis 25 ans, nous, on est passé à autre chose.
Ah yeah! Yeah! Ah yeah, yeah!